Ce soir, nous allons assister, c'est vrai, à un show spatial. La Lune va passer dans l'ombre de la Terre. Ce sera la plus longue éclipse totale de Lune du 21e siècle. Elle durera un peu plus d'1h40. La dernière fois qu'une éclipse a duré aussi longtemps, la Lune est restée dans l'ombre de la Terre pendant 1h47. C'était un temps où France Inter n'existait pas. C'était le 31 mai 318. Eh oui, oui, il y a 1700 ans. Ce soir donc, la Lune va rougir et la planète Mars sera à côté, très brillante, avec une teinte légèrement orangée. Formidable soirée pour les astronomes amateurs. Si vous en faites partie ou si vous êtes fasciné par le ciel et l'espace, l'émission, elle est pour vous. Appelez-nous, toutes vos questions sont les bienvenues. L'espace, on en parle beaucoup en ce moment. La NASA, l'agence spatiale américaine, fête ses 60 ans. Et puis la semaine prochaine, ce sera la nuit des étoiles à partir de jeudi. 01 45 24 7000, c'est le standard du téléphone sonne. Et bien sûr, le site de l'émission, franceinter.fr. Pour vous répondre, Isabelle Vauglin, qui se trouve dans les studios de Radio France à Lyon. Merci à Claire Vuillot, qui rend possible ce duplex avec nos studios à Lyon. Bonsoir Isabelle Vauglin.
Bonsoir.
Vous êtes astrophysicienne, chercheure au Centre de Recherche Astrophysique de Lyon et vous êtes engagée dans des activités de diffusion de la science, notamment en milieu scolaire. Et puis dans ce studio à mes côtés, Olivier Lasvernias, bonsoir.
Bonsoir.
Astrophysicien, président de l'Association française d'astronomie, directeur de publication de la revue Ciel et Espace et créateur des Nuits des Étoiles.
Pierre Veille, le téléphone sonne.
Éléonore nous appelle. Bonsoir Éléonore. Est-ce que vous êtes là, Éléonore? Je ne l'entends pas pour l'instant. On me dit qu'elle
oui,
est en ligne. Ah ben voilà, c'est parfait, formidable. Bonsoir Éléonore.
Bonsoir.
Vous vouliez poser une question, c'est le moment. Vous êtes en direct sur l'antenne de France Inter et nos invités vous écoutent.
Alors, vous dites que Mars sera visible ce soir, mais quelle en est la position des autres planètes de notre système solaire?
Ah oui, effectivement, je pense qu'on ne verra pas d'autres planètes du système solaire. Si, quand... Ah bah écoutez, tout de suite, réponse d'un spécialiste, Olivier Lasvernias. Et l'honneur, écoutez bien la réponse de monsieur Lasvernias.
Ben en fait, c'est une soirée extraordinaire parce qu'on voit toutes les planètes visibles à l'œil nu. Hein. Alors Mercure, c'est un peu difficile parce qu'elle est très près du Soleil. Oui. Mais sinon, tous ces soirs-ci, on a Vénus, donc qui est très 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 bien visible, qui se couche assez tardivement après le Soleil. Normalement, Vénus est toujours très près du Soleil, hein, mais là, elle se couche assez tard, elle se couche à 23 heures, donc il faut regarder vers l'ouest. Vous avez un astre très très brillant, c'est absolument évident. Éventuellement, il y a des avions à côté, mais en tout cas, le truc qui est immobile, c'est Vénus. Ensuite, qui suit et qui est à peu près au sud, quand il commence à faire vraiment nuit, c'est la planète Jupiter, qui est absolument extraordinaire, qui est très très visible. Et puis ça continue.
Mais alors, elle ressemble. Comment on peut repérer ces Jupiter?
À l'œil nu. Ouais. Quand la nuit commence à tomber et s'il n'y a pas trop de nuages d'orage, ouais, les premières choses qu'on voit dans le ciel, hormis les avions qui bougent et la station spatiale internationale, ouais, qui va passer deux fois ce soir, à part ça, ce qui est très brillant dans le ciel et qui a l'air relativement immobile, ce sont des planètes. Hein. Et donc, Vénus côté Soleil, donc ouest, ensuite un peu plus au sud, on a la planète Jupiter qui est, ouais, presque aussi brillante. On a Saturne qui suit, ensuite, un peu plus faible. Alors là, elle est plus faible, on peut la confondre avec une étoile rouge qui est en dessous, qui est Antarès, mais ça, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Et puis, ensuite, on aura Mars qui va se lever. Alors, Mars se lève après la Lune, mais elle est quand même un peu plus au sud que la Lune. Donc, dans le ciel, cette nuit, on va voir Vénus, Jupiter, Saturne et Mars.
Alors, Olivier Lasvernias, il faut nous faire quand même, parce qu'on en parle beaucoup, faites-nous le planning de cette soirée avec cette éclipse.
Alors,
qu'est-ce qui va se passer exactement, à quelle heure?
Alors,
faites-nous
le
planning, pas trop long. Hein,
on le fait en France métropolitaine.
Oui, oui.
Parce que voilà, nos amis de La Réunion, ils ont un spectacle encore plus formidable, parce que l'éclipse va commencer plutôt que le lever de la Lune en métropole. Mais disons qu'on prenons par exemple à peu près le centre de la France, ou prenons Paris pour monter un peu au-dessus. Bon, en gros, la nuit, le soleil se couche à peu près au même moment que la Lune se lève, et à peu près au même moment que la Lune rentre vraiment complètement dans l'ombre de la Terre. C'est 21h30. Ça veut dire que la Lune va se lever, il faudra donc se positionner un peu en hauteur, regarder vers le sud-est, parce que c'est là que tout va se passer, et on va voir, si c'est très dégagé, il n'y a pas de brume, on va voir une Lune étonnamment sombre, rougeâtre, très très faible finalement, peut-être qu'on la reconnaîtra pas. Elle va monter tranquillement jusqu'à 23h13, et là, comme par hasard, la Terre va cesser. En fait, la Lune va se déplacer, elle va sortir du cylindre d'ombre de la Terre, et là, elle va commencer à être éclairée par le Soleil, 23h13. Et il y a encore à peu près une heure avant qu'elle soit complètement éclairée, qu'elle ressemble à une pleine Lune normale.
On a beaucoup de courriels, et je les résume. Pourquoi cette éclipse de Lune, précisément, ce soir? Pourquoi ce soir, la Terre s'interpose entre le Soleil et la Lune?
Ben en fait, alors, je voudrais pas casser l'ambiance, mais finalement, ça se passe à peu près tous les 6 mois. Que la Terre soit à peu près dans l'axe entre le Soleil et la Lune. La Lune tourne autour de la Terre régulièrement. Il faut que les plans de rotation de la Lune et du Soleil et de la Terre autour du Soleil soient se croisent en gros sur le même axe. Disons, il faut que les astres soient sur le même axe de croisement. Ça se produit à peu près tous les 6 mois. Simplement, c'est pas toujours exactement central, exactement total. Et donc c'est le cas, et puis là en plus c'est fantastique parce que pour la France métropolitaine c'est un vendredi soir, à un moment où on peut voir vraiment bien, et en plus elle est encore plus longue parce que la Lune est dans une position où elle tourne un peu moins vite.
Et donc pas besoin d'équipement particulier pour...
Chaise longue. Parce que c'est un phénomène très lent, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais. Même si là, par exemple...
Pas de lunettes de soleil, pas de protection...
Des lunettes de lune,
voilà.
Un thermos ou autre chose...
Bon. Impeccable. Isabelle Vauglin voulait intervenir à Lyon, astrophysicienne, chercheure au Centre de recherche astrophysique de Lyon.
Oui, c'était juste pour compléter justement par rapport à l'observation. Il est surtout pas question de mettre des lunettes comme on a besoin pour les lunettes d'éclipse solaire, parce que autrement vous ne verrez plus rien du tout. Là, ça, c'est vraiment des observations à l'œil nu et pas besoin d'autre chose que de ses yeux pour regarder éventuellement un appareil photographique pour immortaliser le spectacle.
Au standard, Jackie à Nîmes. Bonsoir Jackie.
Bonsoir Pierre, bonsoir France Inter et les invités.
Voilà, vous êtes prévenus ce soir, si vous voulez voir cette éclipse, vous connaissez maintenant à peu près les horaires. Vers 21h30, il faut être en position, le spectacle commencera.
Tout à fait, et à Nîmes, on est bien placé, enfin, bon. On n'est pas les mieux placés, mais on est bien placé.
Vous vouliez poser une question à nos invités, allez-y.
Oui, alors ma question porte sur la possibilité de découvrir des planètes éventuellement même de coloniser l'espace. Aujourd'hui, on entend une petite musique qui dit que bientôt, on va coloniser des planètes où on est en train d'en chercher, qui sont similaires à la Terre. Et c'est un petit peu comme si on jetait quelques espoirs comme ça à l'humanité. Mais je voudrais que vos invités me répondent sur le fait que est-ce qu'on peut véritablement, en l'état actuel des connaissances, coloniser... partir aussi loin et dans quel laps de temps, à quelle échéance? Parce que comme on est en train de détruire notre planète, il faudrait effectivement en trouver une autre. Mais enfin, est-ce que c'est aujourd'hui possible et dans quel avenir?
Réponse d'Olivier Lasvernias.
Je commence. En fait, c'est une question beaucoup d'opinion qui est posée là, pas vraiment une question scientifique. Il y a plusieurs problèmes. Est-ce qu'il y a d'autres planètes sur laquelle on pourrait imaginer que la vie, comme on la connaît nous, soit possible et qui serait vivable pour nous? Ça fait une belle question. Ensuite, il y a...
Répondez.
Alors,
Là, on a fait des détections de... Oui, on a déjà fait des détections d'exoplanètes, ce qu'on appelle les planètes extrasolaires. Ce sont les exoplanètes. On en a découvertes plusieurs milliers. On est maintenant persuadé que un très fort pourcentage d'étoiles sont entourées d'un cortège de planètes. Et on a découvert parmi ces planètes certaines qui ont des caractéristiques qui ressemblent à celles de la Terre, c'est-à-dire des planètes rocheuses, qui ont un sol, qui ne sont pas des planètes gazeuses type Jupiter ou Saturne. Mais pour l'instant, le fait d'avoir détecté des planètes de type terrestre autour d'autres étoiles ne veut absolument pas dire qu'elles sont habitables et encore moins habitées. Parce que dans ces cas-là, il faut d'abord essayer de détecter si elles ont une atmosphère autour de la planète en question. Et oui, quand on sera capable, ça on est quasiment capable de le faire à l'heure actuelle avec entre autres l'instrument Sphère qui a été construit par les collègues grenoblois et qui est sur le Very Large Telescope au Chili, télescope européen. Et après cela, il faudra caractériser cette atmosphère pour essayer de détecter une éventuelle trace de vie. Donc ça, c'est une autre étape que l'on n'a pas encore atteinte. Mais de toute façon, le nombre de planètes de type terrestre est très réduit par rapport au nombre d'exoplanètes détectées. Mmh. Et de toute façon, dans l'univers, les distances sont tellement grandes qu'il est hors de possibilité maintenant, à l'heure actuelle, d'envisager que l'on puisse partir à la colonisation d'une autre exoplanète. Si on envisage même d'aller autour de l'étoile la plus proche qui a une exoplanète, qui est entourée de planètes, mais cette planète n'est pas a priori habitable, c'est quand même 42 000 milliards de kilomètres.
Ah oui, ça fait loin. Ouais, oui, effectivement.
Donc, il nous faudra plusieurs dizaines de milliers d'années pour y arriver. Donc, quand bien même on partirait maintenant, on ne sait pas du tout ce qui arriverait là-bas. Donc, la colonisation, le fait de se dire, bon, notre planète est fichue, il faut qu'on en trouve une autre. Non, ça, moi, je m'élève vraiment en faux contre cette idée-là, qui est vraiment un non-sens absolu.
Pour compléter ce que vous venez de dire, Olivier Lasvergnas.
Bah oui, c'est ça, effectivement. C'est déjà le temps de parcours, les distances, effectivement, sont absolument incompatibles avec les modes de propulsion qu'on a aujourd'hui. Et puis, effectivement, c'est aussi, dans la question, une drôle d'idée de penser que s'il y a des astres qui seraient habitables dans l'univers, s'il y avait des astres qui seraient habitables, il faudrait qu'on les colonise.
Oui. Mais à ce propos, réaction d'auditeurs, Jean-Christian nous a écrit « L'avenir de la conquête spatiale passe-t-il par des initiatives privées comme celle d'Elon Musk, ce milliardaire qui a construit la fusée Falcon Heavy et qui a sa société SpaceX ?» Et son projet, il l'a dit à plusieurs reprises, c'est de coloniser Mars. Est-ce que c'est crédible, Olivier Lasvergnas?
Ben, y a deux questions. Il y a la question de savoir si effectivement l'espace doit être ou peut être un champ de l'initiative privée dans laquelle des sociétés privées s'investissent. Et puis ensuite, est-ce que c'est crédible ? Ben, effectivement, on peut se dire que on peut le regarder de manière un peu, disons, socio-historique en quelque sorte. Au fur et à mesure que l'espace devient de plus en plus accessible, où il y a de plus en plus de technologies, bah effectivement, il est aussi ouvert à des initiatives privées. Donc ça, c'est un phénomène plutôt socio-économique. Hein. On peut le regretter. On peut être pour une recherche qui est plus indépendante des intérêts privés ou pas. Et puis après, il y a la question de savoir si c'est crédible ou pas. Et ça, c'est pas une question d'investisseur privé ou public.
Il y a le voyage qui dure entre 6 et 7 mois pour aller vers Mars.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Isabelle Vauglin voulait intervenir à Lyon.
Oui, et puis il y a effectivement cet aspect d'une entreprise privée qui peut partir à la conquête de l'espace, c'est une chose. Mais par contre, l'espace et entre autres les planètes, les autres planètes du système solaire n'appartiennent à personne. Mmh. Donc, c'est pas parce que SpaceX sera capable de poser des hommes là-bas, des instruments, on le fait déjà depuis pas mal de temps, mais des hommes là-bas, à qui appartiendra Il y a vraiment une question d'éthique fondamentale à réfléchir par l'humanité tout entière, là, pas seulement quelques compagnies privées.
Olivier Lasvergnas, vous avez évoqué toutes ces planètes qu'on pourra observer ce soir, très bien voir, et Fabienne vient de nous écrire comment trouver la station spatiale international lorsqu'on regarde le ciel, comment on la distingue?
Alors, il y a deux choses. Il y a comment faire pour savoir que c'est elle si on la voit un peu par hasard, et puis il y a comment prévoir le passage. En fait, la station internationale, elle se déplace, elle fait un tour de la Terre en à peu près une heure et demie, elle se déplace donc assez vite. En gros, si on a la chance, c'est le cas en ce moment-là, hein, si on a la chance qu'elle passe au-dessus de la France métropolitaine, En gros, elle met 4 à 6 minutes à traverser le ciel, en quelque sorte. Elle, ce qui est important aussi, c'est de savoir qu'elle apparaît du côté ouest. Enfin, ça peut être sud-ouest ou nord-ouest. Et elle disparaît à l'est. Elle est très, très brillante. Elle est comparable, même un peu plus brillante que les planètes dont on parlait tout à l'heure. C'est comparable à Vénus et Jupiter. Et là, en fait, la technique la plus simple, c'est de regarder sur les sites web ou les applications smartphone. Il y a aujourd'hui des tas d'applications gratuites, des sites comme Space Weather, Sky Heavens Above, etc., oui, qui fournissent toutes les éphémérides et pas seulement de la Station Spatiale Internationale. Donc, par exemple, tout à l'heure, je vais évidemment, dès que je sortirai du studio, aller voir l'éclipse. Je sais qu'il y a un passage à Paris à 22h30 et un passage à minuit 6 et qui sont tous les deux très visibles à Paris. Quand c'est visible à Paris, c'est visible en gros dans tout le nord de la France.
Benoît Aumont est avec nous, écoute, le téléphone sonne et souhaite intervenir. Benoît, vous êtes le bienvenu.
Oui, je vous remercie. Bonsoir à tout le monde. Je suis un lecteur assidu de Science et Vie, un bon magazine, et il parle beaucoup de l'astronomie. Et la pollution lumineuse est souvent en cause dans les villes. Et on voit apparemment, on verrait beaucoup moins bien les étoiles. Moi, j'habite en campagne, et on constate déjà avec les halos lumineux que ça perturbe la scrutation du ciel. Est-ce que on va voir aussi bien que ce que vos invités disaient, tout ce qui est planète
Alors, Olivier Lasvergnas, oui, la pollution, c'est vrai, ça peut
alors, première réponse de voir très bien ce soir. Pour les planètes brillantes, finalement, ouais, ce qu'on appelle traditionnellement la pollution lumineuse, c'est-à-dire le fait que le ciel soit lumineux et soit pas noir, en quelque sorte, à cause de l'éclairage urbain, à cause d'une série d'éclairages, ça, c'est pas vraiment gênant pour les planètes brillantes. En gros, la luminosité des planètes est telle qu'on les voit facilement. En gros, en revanche, c'est une catastrophe pour voir ce que nous, on appelle le ciel profond, c'est-à-dire les étoiles faibles, et puis la Voie lactée, qui est la trace de notre galaxie dans le ciel. Et là, même pour le phénomène de ce soir, quand la Lune va être vraiment éclipsée et qu'elle va se lever très très faible, c'est sûr que comme la luminosité est très faible, c'est simplement de la lumière périphérique qui éclaire, la pollution lumineuse peut être gênante.
Des courriels suite à ce que nous avons évoqué il y a quelques minutes, c'est-à-dire la colonisation des planètes, quelle expression. Alors, on nous demande, croyez-vous au tourisme spatial, c'est-à-dire aller faire un tour en orbite autour de la Terre? Isabelle Vauglin.
En orbite autour de la Terre, pourquoi pas? Je pense que ça, c'est quelque chose qui sera bientôt fait. Il faut quand même ne pas oublier que ce sont des technologies qui sont délicates, et on n'a pas encore la certitude à 100% d'avoir des vols qui réussissent. Donc, ça continuera au moins pendant un moment à comporter un risque. Mais ça, c'est relativement faisable. Par contre, du tourisme au-delà, vers la Lune ou vers Mars, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Et je ne suis pas sûre que ce soit pour bientôt.
Olivier Lasvergnas, le tourisme spatial. Je prends quelques jours de vacances. Je suis très riche parce que je pense qu'il faut payer très cher. Je vais faire un petit tour dans l'espace.
Au risque d'être iconoclaste, on peut faire du tourisme spatial gratuitement. Il suffit de regarder le ciel, de regarder la Voie lactée. Je parlais d'une chaise longue tout à l'heure. Oui. On fait du tourisme spatial, du tourisme astronomique avec une chaise longue.
Mais on va beaucoup plus loin. Partir dans un vaisseau spatial, ça donne des sensations. Et puis il faut quand même d'abord, il faut de l'argent, il faut être
riche.
Et puis il faut des conditions physiques, je pense.
Le tourisme astronomique, c'est se promener dans la Voie lactée avec une paire de jumelles. Ça, c'est aussi du tourisme astronomique. Et ça, c'est à la portée de tout le monde pour pas cher.
Arsem est en ligne. Bonsoir.
Bonsoir.
Ah, mais Arsène me semble bien jeune. Bonsoir Arsène, vous avez quel âge ?
5 ans.
Formidable, merci d'écouter France Inter. Vous allez regarder le ciel ce soir ?
Oui.
Voilà, pour voir cette lune rouge et peut-être aussi donc à côté, la planète Mars un peu orangée. Arsène, vous vouliez poser une question ? On l'écoute.
Est-ce qu'on verra les extraterrestres ?
Ah, votre excellente question. Excellente. Oui. Alors, Isabelle Vauglin, c'est pour vous.
Oui, ben tant mieux, parce que il nous fait rêver en même temps qu'il pose ses questions. Hélas, je dois te répondre que pour l'instant, on n'a pas encore détecté d'extraterrestres et il n'y a pas de petits hommes verts sur Mars ou d'êtres vivants sur la Lune. Donc, pour l'instant, les hommes sont les seuls êtres vivants dans l'univers. Je pense que c'est quelque chose qui risque de changer très bientôt, parce que il y a plusieurs endroits que l'on soupçonne être favorables pour développer la vie. Et peut-être que, mais quand tu seras un petit peu plus grand, tu auras un autre discours que celui que je suis en train de tenir, et puis que tu diras, nous avons détecté de la vie à tel endroit ou à tel autre.
Alors, quelle forme
auront les extraterrestres? Ça, je pense que l'imagination humaine peut essayer d'envisager tout ce qu'elle veut, parce que très souvent la science, en fait, nous a montré que ce qu'on avait imaginé, c'était en deçà de ce que la nature, l'univers arrivait à faire. Donc, imagine tous les extraterrestres que tu veux. Et puis, je pense que quand tu seras grand, tu pourras probablement confronter ça à ce que tu avais imaginé étant petit.
Voilà, et Arsène, pour l'instant, on va se contenter de E.T. grâce à Spielberg.
Hein, il a très bon film.
Voilà. Il a un aspect très sympathique. On évoquait la Station Spatiale Internationale. Des courriels arrivent sur le site de l'émission. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans cette Station Spatiale Internationale, Olivier Lasvernias?
Moi, je suis pas un spécialiste de toutes les missions qui sont à bord, mais il y a énormément de missions scientifiques qui sont embarquées systématiquement à bord, et en particulier, il y a des missions d'observation de la Terre. Il y a aussi des missions de physique. Donc, il y a toujours énormément d'expériences. En gros, on n'a pas assez de place à bord de la Station Spatiale pour faire toutes les expériences qu'on voudrait y faire.
Là encore, réaction d'auditeur après ce que vous venez de dire. Isabelle Vauglin, vous avez parlé de la vie qu'on pourrait peut-être découvrir quelque part sur une planète. On nous écrit, on a détecté le plus grand volume d'eau liquide jamais trouvé sur la planète Mars. Ce serait un élément clé pour percer le mystère d'une forme de vie sur Mars. Alors, on nous demande, mais comment a-t-on fait cette découverte?
Alors, Isabelle Vauglin. Oui, cette découverte, quand on dit lac salé, il faut faire attention. C'est quelque chose qui ressemblerait plutôt à une sorte, c'est liquide, mais une saumure liquide vraiment saturée de sel. Pour arriver à rester liquide malgré les températures très très basses, auxquelles serait ce lac quelque chose comme les moins 70 degrés. Et l'instrument qui a permis cette détection, c'est un instrument qui est à bord de la sonde Mars Express, une sonde envoyée par l'ESA, qui est en orbite autour de Mars depuis très très longtemps, puisqu'elle est là-bas depuis 2005. Et l'instrument, c'est un radar qui s'appelle Marsis, et qui donc étudie la façon dont ils ont un retour du signal, et ce qui arrivent à lier ça avec la densité du sol. Donc, ce sont des collègues italiens effectivement qui ont détecté cette étendue de saumure liquide, ce qui relance tout à fait l'idée d'une vie sur Mars, parce que vous savez probablement que Mars a été recouverte d'un océan d'eau liquide. Maintenant, on en a la certitude absolue pendant près de 2,5 milliards d'années, et donc qui aurait permis, ça aurait été suffisamment long pour permettre l'apparition de la vie. Donc c'est ce que recherchent entre autres les rovers qui sont à l'heure actuelle sur Mars, Opportunity et Curiosity. Mais depuis l'espace, donc là les deux rovers sont sur le sol et pas du tout dans les lieux où on a trouvé ce lac qui est proche du pôle sud, mais c'est par un instrument qui est en orbite autour de Mars et qui fait une prospection continuelle pour essayer de trouver ces traces.
Vous avez dit que c'est l'ESA qui a envoyé une sonde. C'est quoi l'ESA?
L'Agence Spatiale Européenne, excusez-moi.
Ah, bah voilà, c'est pour les... je pense toujours aux non-spécialistes dont je fais partie. Jean-Claude avec nous. Bonsoir Jean-Claude.
Ah, bonsoir à tous. Je me posais une question parce que il y a quelques années,
j'étais dans la région de Perpignan, et à peu près vers les mêmes heures, 22 heures, j'ai vu une lune au ras de la mer, extrêmement grosse et rouge, mais quand je dis rouge, c'est rouge, rouge pompier, quoi. Ouais. Alors j'aurais aimé savoir si, est-ce que c'était une éclipse de lune à ce moment-là, ou est-ce que c'était un autre phénomène moins compliqué.
Olivier Lasvergnas.
Ça dépend si c'était un phénomène qui a duré un petit bout de temps, ou si c'était un phénomène momentané, puis ça dépend aussi de la brillance, c'est-à-dire que l'éclipse rouge, elle est vraiment, vraiment beaucoup moins brillante qu'une pleine lune ordinaire. Hein. Donc si c'était juste au ras de l'horizon, ça peut être effectivement simplement comme un soleil qui se lève rouge, hein, simplement ça. En revanche, si c'était assez haut dans le ciel et que ça durait longtemps, vous avez peut-être effectivement vu une éclipse, mais normalement vous l'auriez vu ressortir de l'ombre de la Terre. Hein. Est-ce que vous avez...
On avait plutôt l'impression d'un soleil rouge qui se levait, qui restait rouge tout le temps. Hein.
Isabelle Vauglin.
Oui, parce que si vous avez la date, ce qu'il y a de très très bien en astronomie, c'est qu'on peut faire inverser la flèche du temps et vous pouvez tout à fait retrouver la trace des éclipses qui sont répertoriées sur de nombreux sites. Donc si vous avez la date et l'heure de votre observation, vous pouvez absolument retrouver sur Internet avec certitude si c'était une éclipse ou pas. Donc, mais c'est vrai que quand la Lune est au bas de l'horizon, souvent, hélas, à cause de la pollution industrielle, là, la pollution atmosphérique, l'atmosphère peut apparaître encore plus rouge qu'elle ne l'est naturellement.
Beaucoup de questions courrielles. Guillaume, sachant que la Lune s'éloigne de la Terre chaque année, jusqu'à quand peut-on espérer continuer à voir ce genre d'éclipse comme ce soir, Olivier Lasvergnas?
La Lune s'éloigne, mais pas tant que ça. Et les phénomènes, enfin un phénomène d'éclipse de Lune, ce qu'il faut comprendre, c'est très simple. La Terre est à peu près en diamètre 3 fois plus grosse que la Lune. Donc le Soleil est très très loin, 150 millions de kilomètres. La Terre a une espèce de cylindre, si on veut, d'ombre derrière, un cône en fait, d'ombre. Et la Lune, qui est 3 fois plus petite que le diamètre du tuyau, en quelque sorte, passe dedans. Donc même si la Lune était un tout petit peu plus loin, on aurait encore des éclipses de Lune.
Alors, oui, mais par contre...
Isabelle Vauglin.
Par contre, monsieur a raison parce que un autre phénomène qu'on va perdre entre guillemets plus rapidement que les éclipses de lune, ce sont les éclipses de soleil.
Absolument.
Parce que ça, les éclipses de soleil, vous le disiez, le diamètre de la lune étant un tiers à peu près de celui de la Terre, le cône d'ombre de la lune est beaucoup plus petit. Et à l'heure actuelle, il arrive encore à effleurer la Terre, il touche la Terre et du coup, ça se produit ce magnifique phénomène d'éclipse solaire, mais dans quelques... Je dirais 100 000 ans, quelque chose comme ça, il n'y aura plus, la Lune se sera trop éloignée, et le cône d'ombre de la Terre, le cône d'ombre de la Lune ne balayera plus la Terre, il n'y aura plus jamais d'éclipse totale, ce qui est un phénomène quand même absolument somptueux, mais il n'y aura plus que des éclipses soit partielles, soit annulaires.
Olivier Lasvergnas.
Oui, c'est vrai, c'est tout à fait exact, et c'est intéressant de souligner que on a de la chance que le diamètre apparent de la Lune et du Soleil soit quasiment le même, parce que ça produit des spectacles absolument extraordinaires. Si c'était trop petit, effectivement, on verrait un anneau, mais on serait complètement ébloui. Et si c'était trop grand, on verrait pas ce qu'on appelle les protubérances et la couronne solaire. Donc on a un coup de chance. Pour l'instant, on pense plutôt que c'est une coïncidence. Hein. Donc quand il y a des coïncidences, ça nous intéresse toujours, nous les scientifiques. Donc en tout cas, on a un coup de chance fantastique avec ça.
Les auditeurs qui sont fascinés par cette éclipse de lune ce soir, avec cette lune qui sera rouge. Mais ce qui fascine aussi, c'est la présence bien visible de la planète Mars, hein, qui sera un peu orangée, qu'on verra très très bien, ce qui est quand même assez rare. Et alors, on nous dit que ce soir, d'après ce que l'on raconte, les spécialistes, la planète Mars serait assez proche, plus proche que d'habitude de la Terre. Elle sera quand même à 57 600 000 km de la Terre. Pourquoi est-elle un peu plus proche de nous ce soir, Olivier Lasvergnas?
Oui, mais c'est tout bête. Hein. En fait, là, nous sommes. C'est un peu comme si on était sur une piste d'athlétisme. Nous tournons tous les deux, la Terre et Mars, autour du Soleil. Simplement, nous, on est à l'intérieur, on est à la corde, en quelque sorte. Mars est plus loin à l'extérieur. Nous, on tourne plus vite. Et donc, il y a des périodes où on rattrape en quelque sorte Mars et on est du même côté. Et à ce moment-là, on est aux alentours de 60 millions, même de 57 millions de kilomètres. Et puis, une année plus tard, on est de l'autre côté, enfin un peu plus d'une année plus tard, on est de l'autre côté de la piste. Et là, il y a deux fois la distance du Soleil plus la distance de Mars qui nous oppose en quelque sorte.
Véronique dans le Finistère. Oui. Véronique, bienvenue. Merci d'être avec nous.
Oui, bonjour. Ma question, c'était de savoir si les télescopes qu'on a en France permettent de voir au-delà, les gros télescopes, permettent de voir au-delà des nuages quand le temps est couvert.
Isabelle Beuglin qui voulait, je crois, dire un petit mot à propos de la distance avec la planète Mars. Allez-y, puis après on va répondre à Véronique.
D'accord, je rajoute juste à propos de la distance de Mars. Effectivement, ce qu'Olivier Lasvernias a expliqué, c'est tout à fait ça. Mais en plus, il y a quelque chose supplémentaire, c'est que nous sommes, Kepler l'a démontré, sur des ellipses. Et donc, de temps en temps, Mars peut être plus près ou plus loin que la moyenne de sa distance Terre-Mars. Et en ce moment, on est vraiment dans la configuration la plus favorable parce que Mars est dans ce qu'on appelle la grande opposition, c'est-à-dire qu'elle est du côté, la Terre et Mars sont du même côté, donc on est typiquement à 70 millions de kilomètres, mais en plus, Mars est à son apo-astre, c'est-à-dire qu'elle est le plus près. Comme on n'est pas sur un cercle, mais sur une ellipse, elle est plus près encore qu'elle ne peut l'être habituellement. Mmh. Et c'est pour ça que Mars est très brillante en ce moment et qu'elle a un diamètre apparent, mais ça, à l'œil, on ne le voit pas. Il faut un petit instrument pour s'en rendre compte. Elle est plus grosse en diamètre que d'habitude.
Voilà. Alors, 57 millions, question... 600 000 kilomètres. C'est quand même un chiffre qui donne le vertige. Alors, pour répondre
Non, mais dans l'univers, c'est quelque chose de très proche.
Bien sûr, c'est rien du tout, évidemment.
C'est rien du tout. Par rapport à la réponse sur les télescopes de votre auditrice, Je répondrai que ça dépend de la longueur d'onde à laquelle on observe. Les astronomes, pour essayer de comprendre les objets dans l'univers, on doit observer à toutes les longueurs d'onde, c'est-à-dire toutes les couleurs. On ne peut pas se limiter, pour arriver à comprendre complètement un objet, uniquement au domaine qu'on appelle visible, donc qui correspond à la lumière que nos yeux sont capables de détecter. On utilise tout le spectre électromagnétique, c'est-à-dire toutes les sortes de lumière. Et là, entre autres, dans certains domaines comme le domaine radio, eh bien, dans la partie qui est dans la fenêtre qui arrive jusqu'au sol, là, vous pouvez faire des observations même si le ciel est couvert. Par contre, il y a d'autres domaines de longueur d'onde, comme l'infrarouge ou bien encore plus loin du côté du violet, ultraviolet, rayons X, rayons gamma, qui, eux, ne sont jamais observables depuis le sol parce que l'atmosphère coupe est complètement opaque à ces longueurs d'onde-là. Et heureusement pour nous, d'ailleurs, parce que ce sont des longueurs d'onde, des photons qui sont tellement énergétiques qu'ils auraient empêché, très probablement, l'apparition de la vie si l'atmosphère n'avait pas joué son rôle de bouclier protecteur.
Complément de réponse avec Olivier Lasvernias, je le rappelle, astrophysicien et président de l'Association française d'astronomie.
C'est une réponse un peu simpliste, un peu bébête, mais elle est réelle. Il y a de plus en plus d'amateurs, et alors évidemment de professionnels, qui utilisent des télescopes à distance. Donc il y a des tas de gens qui développent des télescopes qui sont installés, par exemple, au Chili, par exemple, dans des sites tout à fait... avec une météo tout à fait favorable et qui font de l'imagerie, aussi bien amateur que professionnel, à distance. Vous avez par exemple le virtualtelescope.eu qui est un télescope en permanence accessible. On peut observer avec lui.
Dites-moi, ceux qui ont des télescopes, ce soir, ils vont se régaler alors.
Oui, tout à fait.
Ça va être extraordinaire. Eux, ils ont une vue formidable.
Le problème de ce soir, c'est que l'éclipse de lune, elle est visible en Europe. Elle est, par exemple, pas visible aux États-Unis, pas visible en Amérique. Donc, il y a un autre problème. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a beaucoup de passionnés qui utilisent des télescopes à distance, qui font de l'imagerie à distance. Et l'essentiel, en fait, enfin, pas l'essentiel, je vais me faire rouspéter si je dis ça, une grande partie maintenant des images proviennent d'observatoires en orbite aussi.
Isabelle Beuglin, à Lyon.
Oui, en tant que professionnel, nous avons des télescopes. Alors en France, il en reste plus beaucoup à cause de la pollution du ciel. Il reste l'Observatoire de Haute-Provence et l'Observatoire du Pic du Midi, qui sont deux télescopes de 2 mètres, pour lesquels on va faire les observations dans les coupoles. Mais par contre, effectivement, les télescopes que l'on partage avec les collègues européens qui sont au Chili, dans la cordillère des Andes, dans le désert de l'Atacama, ceux-là sont dirigés à distance et on fait des observations soit depuis notre bureau, soit depuis le centre européen qui est à Garching. Et de la même façon, on a des télescopes. Alors, les Européens, les Français ont accès aux télescopes pour lesquels la France paye quelque chose. Oui. Mais si on a des collaborations avec des Australiens ou des collègues américains, nous avons aussi accès sur le temps de télescope qui nous est attribué, évidemment. Hein, pas question d'empiéter sur le temps du collègue, il ne l'accepterait pas. Mais pendant qu'on a ce temps de télescope, pendant que le télescope est à nous, basé sur un projet qui a été sélectionné, évidemment, on peut tout à fait commander les télescopes à distance. Mais j'avais compris la question de la personne comme étant dans l'absolu. Où que l'on soit sur Terre, les radiotélescopes pourront faire des observations pendant que, même si le ciel est couvert, et où que l'on soit sur Terre, si vous faites des observations invisibles, les nuages vous empêcheront de faire des observations.
Toulouse et Philippe. Philippe à Toulouse, bonsoir.
Oui, bonsoir. Voilà ma question. Moi, je travaille dans le milieu spatial sur Toulouse et j'aimerais connaître l'impact écologique de tous les lancements que l'on peut faire à travers le monde pour mettre donc des satellites en orbite autour de notre planète, tout simplement.
Olivier Lasvergnas.
Ben, on a comme ça, j'ai pas de données du tout sur la question.
Isabelle Vauglin à Lyon. Si on se chevauche un peu, c'est parce qu'on ne se voit pas. Hein. Vous êtes à Lyon,
oui,
je suis à Paris.
Pas de souci.
Allez-y.
Effectivement, ces débris spatiaux commencent à poser de réels problèmes et il y a un cocon autour de la Terre qui est maintenant une zone un peu à risque. D'ailleurs, il y a des télescopes qui sont dédiés, entre autres, à Hawaï, un télescope américain sur l'île de Maui, dans le Haleakala, qui est dédié à l'observation des plus gros débris parce que les vitesses relatives sont tellement importantes, vous êtes à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde. Donc même l'impact d'une vis ou d'un morceau de débris de station qui a explosé, parce que hélas il y a eu quand même pas mal d'échecs, donc du coup ces débris restent en orbite pendant un certain temps autour de la Terre. Ils vont finir par retomber, mais ils vont retomber dans des délais qui sont beaucoup plus grands que la rapidité de lancement à l'heure actuelle de sondes. Donc il y a effectivement une surveillance en continu des déchets les plus gros et les plus dangereux. Et on essaye d'éviter. Il y a certaines orbites qui sont maintenant « sales », entre guillemets, que l'on est obligé d'éviter parce que le risque de collision est trop important. Et en cas de collision, les risques de destruction sont très importants.
Olivier Lasvergnas, bientôt la fin de l'émission. Je rappelle, vous êtes le créateur des Nuits des Étoiles. Ça commencera jeudi prochain. Cette année, est-ce qu'il y a une ligne directrice?
Bah, il y a évidemment
ces soirées.
Il y a évidemment la planète Mars, hein, parce que c'est vraiment effectivement la grande opposition, comme on le disait tout à l'heure. Donc vraiment, on va mettre en particulier le paquet là-dessus. Mais le fait qu'on voit toutes ces planètes en même temps, Vénus, Jupiter, Saturne et Mars, ça fait qu'on parlera pas seulement de la planète Mars, mais aussi de tout le système solaire. Et puis, en essayant de se débarrasser au mieux de la pollution lumineuse, aussi bien entendu du ciel profond, et puis aussi des étoiles filantes, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi un des sujets du début du mois d'août.
Et notez que le 5 août, à 17h, l'émission de Fabienne Chauvière, Les Aventuriers, sera consacrée à l'exploration de Mars. Hein, depuis les années 60, il y a eu une cinquantaine de missions consacrées à cette planète. Où en est-on aujourd'hui dans l'exploration de la planète Mars, Isabelle Vauglin?
Alors, je pense qu'on a fait de très, très gros progrès là-dessus. Je vous parlais des deux rovers Curiosity et Opportunity qui sont là-bas. D'ailleurs, c'est vraiment la collaboration. Là, on parlait tout à l'heure des entreprises privées. Pour ce qui est du milieu professionnel, même si certaines missions sont lancées par l'Europe, d'autres sont lancées par la NASA, d'autres sont lancées par l'agence japonaise ou indienne. Les Indiens aussi ont envoyé une sonde là-bas qui a très bien fonctionné, d'ailleurs. c'est une collaboration. Et sur Curiosity, par exemple, il y a deux instruments, parce que ces rovers qui sont là-bas, c'est un concentré d'instruments. Hein, on met la structure minimum qu'il faut pour maintenir ensemble les instruments qui vont faire des tas d'observations diverses et variées. Oui. Et deux de ces instruments sont des instruments qui ont été en très grande partie développés par des équipes françaises.
Alors,
il y a des collaborations avec les Américains, les Anglais, les Italiens, les Français bien sûr, les Espagnols, les Allemands. Enfin, c'est vraiment une collaboration et ces instruments fonctionnent parfaitement. Parce que ce soit Curiosity qui est là-bas depuis le 6 août 2012, sa durée de vie normalement était prévue pour 2 ans. Et on est en 2018 et il fonctionne toujours parfaitement. De même pour Opportunity. Opportunity, c'est encore mieux. Il est là-bas depuis 2004. Il était prévu pour fonctionner 3 mois et il fonctionne toujours à merveille. Donc quand on veut faire des instruments qui marchent, on sait faire.
Voilà, on n'a pas eu le temps de parler de la NASA. On a eu des courriels d'auditeurs nous demandant, voilà, la NASA nous a permis de découvrir la Lune, d'y aller. Quels sont aujourd'hui les projets de la NASA qui fête ses 60 ans. En quelques mots, Olivier Lasvergnas, la NASA prépare de nouveaux voyages vers la Lune.
Ça rejoint la question qui a été posée tout à l'heure des partenariats public-privé. Ouais. En ce moment, effectivement, la question, c'est plutôt la recherche de partenaires privés pour les missions. Donc, il y a effectivement des missions...
Parce que ça coûte trop cher. Il faut se mettre à
plusieurs. Parce que c'est une philosophie de la recherche aussi, qui n'est pas forcément partagée par tout le monde. Et parce que ça coûte très cher et qu'en plus, effectivement, disons les grands pays comme les États-Unis n'ont pas l'air forcément très intéressés à mettre beaucoup d'argent dans l'exploration lunaire. Voilà, c'est clair.
Isabelle Vauglin, sur la situation de la NASA qui nous a fait tant rêver avec les missions Apollo, hein.
Oui, bien sûr, mais la NASA, elle nous fait rêver encore pour des missions qui sont plus lointaines. C'est vrai, retourner sur la Lune ou envoyer des hommes sur Mars. C'est vrai que les scientifiques, on n'est pas vraiment volontaire pour envoyer des hommes, parce qu'en fait, envoyer un homme ou des hommes, ça coûtera infiniment plus cher qu'envoyer des robots, et on arrive à faire des robots qui font plein de choses.
Merci.
Mais par contre. Oui. Juste la mission JUICE, qui est une mission qui nous fera probablement rêver pendant très très longtemps, parce qu'elle va aller, j'espère si elle se fait, se mettre en orbite autour du satellite Europe, en dessous duquel on a découvert un lac d'eau de presque douce.
Merci, oui. Et malheureusement, le temps a passé, Madame Vauglin. D'accord. Il faut s'arrêter. Merci à nos invités. C'était le téléphone sonne avec Isabelle Vauglin dans les studios de Radio France à Lyon et Olivier Lasvergnas. Et puis, information essentielle avant de se quitter. Mick Jagger a eu 75 ans hier et je crois qu'une planète lui convient parfaitement. C'est Jupiter. Un chef jupitérien, impérieux, dominateur du rock depuis plus de 50 ans. C'était le téléphone sonne. Cette semaine à la technique, il y avait Tristan Gratalon, Philippe Duclos, Antoine Teboul, Vincent Godard, Loïc Frapsos et Rémi Sistiaga. Et ça fait du monde, mais l'émission, elle est lourde. À la réalisation, Lucie Lemarchand. La préparation, Simon Aresta, Pierre de Certaines et Caroline Baudry. Merci à toutes et à tous. Sans vous, rien ne serait possible. Il est 20h30.